On va continuer l'étude sur les dons spirituels. C'est ce qu'on a commencé il y a plusieurs semaines. Puis on a encore beaucoup, pas mal de bagages encore à voir là-dessus. C'est sûr qu'on fait juste comme un survol de chaque don parce qu'on pourrait y aller plus en profondeur pour aller chercher plus d'exemples. La Bible est pleine d'exemples de la manifestation du Saint-Esprit dans ce monde. Particulièrement dans les chrétiens. C'est sûr que le Saint-Esprit, il maintient toute l'univers en existence par sa puissance. Fait que le Saint-Esprit maintient les arbres, la terre, les étoiles, tout ce qui est là, tout ce qu'on voit, il maintient ça en existence. On peut dire, je vois Dieu dans tout ce qu'il a créé. Oui, c'est vrai qu'on voit Dieu. Mais quand on s'approche de Dieu, puis qu'on rentre dans le plan du Nouveau Testament, d'être sauvé par la grâce de Dieu, puis par le Jésus-Christ, puis là tu reçois le Saint-Esprit, ça nous donne d'expérimenter des choses encore plus visuelles que ça, que de voir la création, c'est correct, puis gloire à Dieu pour sa création. Mais quand tu vois le Saint-Esprit faire des miracles, qui sont des choses qui sont complètement contraires aux lois de la physique, admettons. Comme un exemple, Jésus qui marchait sur l'eau. Ça, c'est la puissance de Dieu en action. Que Dieu, dans le système de la vie, il a fait des lois naturelles. Il y a la balistique, la gravité, puis tout ça. Mais Dieu peut faire des miracles qui vont même au-delà de ce qu'il était supposé de se faire. Il n'y a pas un homme sur la planète qui peut marcher sur l'eau, à moins que ce soit en hiver. Là, tu marches sur l'eau, tu marches sur la glace. Mais à part de ça, si t'es sur l'eau, tu cales. Mais ça, c'est un exemple. Ce soir, justement, on va parler sur le don d'opérer des miracles. C'est un don que le Saint-Esprit donne à certaines personnes. Puis vous allez voir qu'il y en a beaucoup de miracles qui s'est produit depuis que Dieu a créé la création, puis particulièrement dans le temps de ses apôtres. Puis là, on en voit encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard. L'explication biblique du don spirituel qui s'appelle « don des miracles ». On voit ça dans 1 Corinthiens 12, 10. Ça nous dit que le Saint-Esprit a distribué ses dons en particulier à chacun comme qu'il veut, puis il dit à un autre, il a donné le don d'opérer des miracles. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont enfants de Dieu, qui ont passé par la nouvelle naissance, sont sauvés, ils marchent en contact avec Dieu, mais le Saint-Esprit leur a donné de pouvoir voir des miracles dans leur vie, puis il a donné de pouvoir manifester des miracles autour d'eux. Vous allez voir, en continuant l'étude, vous allez voir que c'est intéressant. Moi, j'aime bien ça. Les miracles, là, c'est quand on parle du mot miracle, parce que ça, pour se donner un vrai sens là, biblique, là, le sens selon la Bible, c'est des actes de puissance, t'appelles ça des prodiges ou des signes. Mais c'est un acte éclatant, puis le mot grec, là, le mot hébreu, je veux dire, pour dans l'Ancien Testament, c'était mot au fait. C'est dans le sens de manifestation éclatante, un prodige, une merveille. C'est quelque chose qui est... Quand tu vois ça, aïe aïe, c'est extraordinaire, c'est un miracle. Mais quand tu parles d'un miracle, c'est un acte éclatant, c'est quelque chose de surnaturel, c'est quelque chose de puissant, qui n'est pas naturel. C'est ça qui est le vrai sens du mot miracle. Puis dans le Nouveau Testament, ça désigne les miracles par des thèmes comme dynamis, qui veut dire puissance, ou terata, qui est un prodige, un acte étonnant, ou semia, qui est un signe. Le but de tout ça, c'est que Dieu, bien qu'il ait établi qu'il y ait des lois physiques, Dieu prend plaisir à faire des choses au-delà de sa loi physique dans le but d'éclater sa gloire. Dans le but de faire un acte éclatant, là, quelque chose de grandiose, quelque chose que c'est impossible aux humains de le faire, mais Dieu il aime ça faire des choses comme ça, comme je donnais l'exemple tantôt de marcher sur l'eau. C'est un acte éclatant, c'est « wow, il y a quelqu'un qui marche sur l'eau ». Si on verrait ça ici, quelqu'un traversait à pied là sur le fleuve Saint-Laurent, on tomberait à terre en voyant ça. Puis les disciples, les premiers apôtres qui étaient habitués de voir des miracles, quand ils ont vu Jésus marcher sur l'eau, ils pensaient de voir un fantôme. Ils ont tout eu peur. C'est surnaturel. C'est un acte éclatant. C'est un acte puissant parce que c'est au-delà des lois naturelles. Puis c'est un signe. C'est dans le sens du mot signe. En voulant dire, Dieu veut montrer un signe comme quoi qui est là. Fait qu'il fait de quoi d'éclatant. Fait de quoi d'extraordinaire. Puis Dieu a donné ce don-là de faire des miracles à certains de ses disciples. Parce qu'il veut éclater sa gloire. C'est un des dons dans l'ensemble des dons. Mais si on y va dans le vrai sens, là, tous les dons sont des miracles. C'est que tu parles en d'autres langues, qui est un don des langues, on va le voir dans une étude plus loin, ou que tu pries pour une personne, puis la personne est guérie instantanément, c'est un miracle pareil, même s'ils ont distingué. Mais quand on parle du don de miracle, c'est comme, plus en particulier, marcher sur l'eau, c'est un miracle. Multiplication des pains, c'est un autre miracle. Chasser un mauvais esprit, c'est un miracle. Quelqu'un qui est pris avec un mauvais esprit, puis que tu t'arrives, puis tu pries, puis tu prends autorité, puis l'esprit, il sort en criant. C'est des actes étonnants qui démontrent la puissance de Dieu. Puis c'est Dieu, il a donné ces dons-là à certains de ses disciples. Mais faut faire attention. Là, ce que je vais parler, c'est pour nous mettre comme un éclaircissement. Vous avez vu, quand j'ai parlé de parole de connaissance ou parole de sagesse, j'ai donné qu'il y en avait trois modèles des connaissances des hommes, c'est une chose, mais c'est pas le don spirituel de parole de connaissance. Ou la sagesse des hommes, c'est pas la sagesse du don spirituel. Mais on va voir que pour les miracles, il y a deux types de miracles. Il y a les miracles que Dieu fait, puis il y a les miracles que d'autres esprits font. Il faut bien comprendre que quand on voit des miracles, c'est pas toujours le Saint-Esprit qui a agi. Dans le monde invisible, présentement, pendant qu'on se parle, Dieu, l'Esprit de Dieu est là. Jésus-Christ est là. Jésus a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Mais il y a aussi ces anges à Dieu qui sont là, ils font du ministère, ils nous protègent, ils nous aident dans notre vie sans qu'on s'en rende compte, ils sont là. Ce qu'on appelle communément anges gardiens, Dieu a mis des anges pour nous protéger. Mais il y a aussi des anges rebelles à Dieu qui sont là depuis le début. Le premier qu'on voit dans la Bible, là, c'est qui, là, le premier ange rebelle qu'on voit dans la Bible? Satan lui-même. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tomber dans le péché Adam et Ève, qui a entraîné l'humanité à être chassée du jardin d'Éden. Bon, cet esprit-là, Satan, et tous ceux qui suivent Satan, eux autres, ils agissent dans ce monde, puis ils font des signes, des prodiges, des miracles, dans le but de tromper le monde. On va voir qu'il y a deux sources pour des miracles surnaturels. Puis on va voir en premier les miracles produits par d'autres esprits qui sont pas le Saint-Esprit. Pourquoi que je parle de ça? C'est parce qu'il faut faire attention que même si on voit des miracles, il faut quand même sonder si l'esprit qui est en arrière de ce miracle-là, si c'est le Saint-Esprit ou si c'est un autre esprit. Le premier exemple que je vous amène pour parler des miracles par d'autres esprits, c'est l'exemple qu'on voit des enchanteurs au temps de Moïse. Tout le monde a vu le film Les 10 commandements, où ce que Moïse est envoyé par Dieu, mais ça c'est des récits dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'est un fait vécu, là. Moïse a réellement existé, puis il a été envoyé par Dieu pour aller sortir le peuple d'Israël d'esclavage de l'Égypte. Ils ont été 400 ans esclaves en Égypte, puis Moïse a été envoyé par Dieu avec des pouvoirs. Quand il est envoyé, je sais pas s'il y en a qui se rappellent quels sont les deux premiers, en parenthèse, dons de miracles que Moïse a manifesté. Le premier...
Dieu, il a dit, je te fais Dieu.
Oui, mais quels sont les miracles que Dieu lui a donné de pratiquer? Il a dit, mets ta main dans ton côte.
Ah oui, la lèpre.
Il a sorti, sort ta main, elle était couverte de lèpre. rentre ta main dans ton côte, puis après ça, il est ressorti, puis il était comme saine. Le deuxième acte de miracle qui a permis de vivre à Moïse, c'était quoi?
Son bâton,
qu'est-ce qu'il a fait avec?
Le bâton, il est venu comme un serpent.
C'est ça. Oui. Hein? Elle l'a jeté à terre, son bâton, puis s'est changé en serpent. Dieu voulait montrer deux signes au grand pharaon, qui était le pharaon d'Égypte, qui était le roi d'Égypte, qui était celui qui avait le droit de vie ou de mort sur tout le monde. Dans ce temps-là, ça jouait rough. Puis là, il est envoyé avec deux pouvoirs venant de Dieu pour faire deux miracles, pour pouvoir démontrer qu'il est envoyé par Dieu. Donc, les miracles lui ont été donnés pour démontrer un signe comme quoi que Dieu était avec Moïse. Quand Moïse a dit, laisse sortir le peuple, on s'en va dans le désert, puis on va aller faire un sacrifice. Fait que là, le pharaon a vu les signes que Dieu lui a donnés. Il a montré la lèpre, il a échangé le bâton en serpent. Sauf que c'est là que je rentre dans l'autre. Ce que je veux vous expliquer, les magiciens, les enchanteurs, les gens qui marchaient dans les sciences occultes, on parle pas de magiciens, là, prestigitateurs, qui font des jeux de cartes, là, puis qui montent leurs cartes, puis ils montent. Non, ça n'a aucun rapport avec les prestigitateurs, ça, c'est des illusionnistes. Mais il y a des vrais magiciens qui marchent dans communion avec les démons, avec des sorciers ou des chamans ou des gens qui marchent, des médiums qui marchent en communion avec les démons, qui étaient auprès du pharaon, puis ils conseillaient le pharaon. Puis, ils sont venus à côté du pharaon, puis ont pris le bâton aux autres ici, puis ont jeté le bâton à terre, passé changeant serpent. Ils ont fait la même chose. Le seul détail de plus, c'est que le serpent de Dieu, de Moïse, a mangé les autres serpents. Ce que je veux vous dire, si on irait voir tous les récits, on voit que, je pense que c'est les quatre premiers miracles que Dieu a envoyé Moïse devant le pharaon. Avec les quatre premiers miracles, les magiciens ont été capables de le reproduire. Sauf qu'il y a eu 10 miracles qui s'est produit. C'était comme 10 plaies qu'il y a eu sur l'Égypte. À un moment donné, il a pris de la poussière, il a jeté ça dans les airs, puis ça s'est changé en forme vivante, c'est devenu des poux. Ça l'a rempli l'Égypte de poux. Puis là, les magiciens ont reconnu, ils ont dit, c'est le doigt de Dieu, eux autres, t'es pas capable de le faire. Les magiciens ont reconnu la main de Dieu dans les actions surnaturelles de ce que Dieu venait de faire, parce qu'il venait de créer la vie. Puis ça, les magiciens ne sont pas capables de créer la vie. Les miracles, comme changer les choses, ils sont capables. Modifier les affaires, ils sont capables. Mais là, quand c'est venu le temps de créer la vie, des poux, puis les autres plaies aussi, les grenouilles, faire monter. Il y a plein d'affaires qui s'est produit qui n'ont pas été capables de reproduire. Mais ce que je veux en venir, c'est qu'il y a quand même des miracles qui sont faisables par ceux qui consultent les sciences occultes. Ça peut arriver que vous allez voir une médium, puis vous allez entendre un esprit parler à travers la médium. Ça existe. Mais Dieu veut pas qu'on y aille voir ça, il veut pas qu'on y aille consulter ça. Même chose pour les magiciens, les vrais magiciens là, avec des pouvoirs occultes. Ça existe, ça n'était, c'était appelé des enchanteurs, ils pratiquaient des enchantements. Puis là, on voit ça dans Exode 7, ce passage-là. Il allèrent auprès du pharaon, ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant le pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs, et les magiciens d'Égypte, eux aussi en firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent des serpents, et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Tout ça pour dire, il y a des miracles qui sont faits par d'autres esprits. Faut faire attention, même dans le Nouveau Testament, dans les actes, On voit l'exemple de Simon le magicien, qui est un personnage dans une ville qui pratiquait des actes de magie. Il exerçait la magie puis provoquait l'étonnement du monde qui voyait ses pouvoirs magiques. Puis tout le monde élevait ce gars-là comme étant le don de Dieu, puis le pouvoir et la puissance de Dieu. On voit ça dans Acte 8, le verset 9. Je vais vous raconter l'histoire. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donnait pour un personnage important, exerçant la magie et provoquant l'étonnement du peuple et de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande ». Il l'écoutait attentivement parce qu'il l'avait longtemps étonné par ses actes de magie. Là, on voit que des pouvoirs magiques, des miracles, des signes, des manifestations, ça séduit, puis il y a beaucoup de monde qui allait l'écouter, puis il croyait dans les discours de ce gars-là. Mais comme qu'on sait, c'est Pierre, il est arrivé dans cette ville-là, puis là, les gens ils ont cru au message de Pierre, puis même Simon, il s'est converti au Seigneur Jésus-Christ, puis finalement, pour comprendre que les miracles, ça existe, le monde, dans le monde qui marche en communion avec les démons, ben ça existe. Un autre passage que Jésus nous m'en garde lui-même. Jésus nous a annoncé la venue de faux prophètes puis des faiseurs de miracles. Dans Matthieu 24:24, c'est Jésus qui parle. Il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Là, on voit que nous, en tant qu'élus, parce qu'on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes les élus, les ceux qui sont sauvés. Nous sommes avertis par le Seigneur lui-même, faites attention, il va venir des gens qui se font passer pour des Christ, ils vont se faire passer pour des prophètes, puis ils vont faire des miracles, puis des grands miracles, au point de séduire mes élus, au point de vous séduire. Fait qu'il est important, frères et sœurs, que chaque croyant fasse attention lorsqu'on voit des actes de miraculeux, là, des miracles. Il faut faire attention puis s'informer bien comme il faut si c'est le Saint-Esprit qui agit ou si c'est un autre esprit. Parce qu'il y a d'autres faux prophètes, il y a des faux prophètes dans le monde qui font des miracles. Puis c'est pas à cause qu'on voit un miracle qu'il faut dire « Oh, c'est Dieu! » Non, ça peut être un mauvais esprit qui fasse ce miracle-là. Il faut faire attention. Puis Paul, aussi, un dernier verset pour prouver que ça existe, puis que la Bible en parle, qu'il y a des faux miracles. Le dernier passage, c'est Paul qui annonce la venue d'un antéchrist. Dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, le verset 9. Ça nous parle d'un impie, puis l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles. L'impie, il va avoir un personnage qui est appelé impie, qui va venir pour prendre le contrôle de la planète avec le gouvernement mondial. C'était prophétisé dans plusieurs versets de la Bible, mais pour vous faire un résumé, il va avoir un faux prophète puis un antéchrist qui va être au pouvoir d'un empire politique sur la Terre. C'est en train de s'installer. Puis ils vont faire un contrôle mondial. Il va y avoir une chute de l'économie, tout va tomber à terre. Puis là, il va y avoir un contrôle imposé en recevant la marque de la bête. Puis que tout le système, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Mais il va y avoir un faux prophète à côté de ce gouvernement mondial-là qui va être à côté, puis il va appuyer ce système politique-là. Puis ce faux prophète-là, il est placé là par Satan lui-même pour faire des puissants miracles, pour séduire la terre, pour que la terre adore la bête et son image, puis qu'ils reçoivent la marque sur leur front, sur leurs mains. Ça nous parle que c'est par la puissance de Satan que cet impie-là va apparaître, puis il va faire toutes sortes de miracles, de signes, puis de prodiges mensongers. Pourquoi qu'ils sont mensongers? Parce qu'ils ne sont pas faits par le Saint-Esprit. Ça vient de Satan lui-même. Avec toutes sortes de séductions d'iniquité pour ceux qui périssent, Bon, là, il y aura une puissance d'égarement, puis ils vont croire, ceux qui ne croient pas en la vérité, s'attacher à la parole de Dieu, mais ils vont prendre plaisir à cette injustice-là, puis ils vont s'adhérer en se faisant marquer de la marque de la bête, puis ils vont adorer la bête et son image, parce que cette séduction-là va être puissante, puis elle va frapper l'ensemble de la planète. Mais moi, ce que je voulais en venir, c'est Dieu veut qu'il y ait des miracles sur la terre, mais il veut les faire lui-même. Mais il nous avertit, faites attention, parce qu'il y a d'autres esprits qui sont en cours, puis qui voyagent dans les gens, puis qui font des miracles au travers des gens. C'est pas toujours le Saint-Esprit. Le don d'opérer des miracles par le Saint-Esprit, lorsqu'on parle de miracles de Dieu, cela sert à confirmer la parole de Dieu. Premièrement, la première chose qu'on doit comprendre, c'est que Dieu ne fera pas rien contraire à la parole de Dieu. Dieu nous a donné la Bible, il nous a donné la parole de Dieu, puis tout ce qui est dit à travers le Saint-Esprit, c'est dans le but de nous ramener toujours à la Bible. Puis la Bible est notre guide, la Bible est notre chemin, la Bible est notre... Les bornes et notre clôture, faut pas dépasser dans ce qui est écrit. Tu te trompes pas à ce moment-là. Si tu restes dans ce qui est écrit, tu te trompes pas. Mais les esprits qui sont pas de Dieu cherchent toujours à nous éloigner avec des mensonges. Comme le diable, il a trompé Adam et Ève par des mensonges. Puis là, il a fait tomber Adam et Ève dans le péché. Mais le mensonge, c'est ça qui est la base, la puissance du diable, c'est le mensonge. Tandis que Dieu, sa puissance, c'est la vérité. Tant que tu restes basé sur la révélation de la vérité, tu restes dans la vérité. C'est la parole de Dieu, la vérité. Faut rester dans la Bible. Si tu écris, si c'est écrit, c'est vrai. Si c'est pas écrit, on touche pas à ça. C'est là qu'on voit, mettons un exemple, il y a quelqu'un qui dit, « Hey, viens me voir, je vais te tirer aux cartes. » Bon, comment je fais pour savoir si c'est de Dieu tout ce qu'elle va me dire? Premièrement, je vais aller voir dans la Bible, est-ce que Dieu veut que j'aille consulter ceux qui prédisent l'avenir, puis l'astrologie, puis ces affaires-là? Non, parce que la Bible, elle dit déjà de pas y aller. Fait que, si je reste basé sur ce qui est écrit dans la Bible, je me ferai pas tromper par cet esprit-là qui est dans la tireuse de cartes, ou dans les signes de l'astrologie, ou dans toutes les sciences occultes, ou aller même dans une messe noire, ou dans pour avoir des pouvoirs. Il y a du monde qui le font. Il y a du monde qui sont assoiffés de magie. Il y a une boutique de magie noire dans notre ville.
Ça réalise.
Ouais. Fait que s'il y a une boutique là, puis elle continue à être là, ça veut dire qu'il y a du monde qui n'ajoute des affaires, qui sont séduits par ça. Mais pourquoi ils sont séduits par ça? Mais c'est parce qu'ils lisent pas la Bible, parce qu'ils liraient la Bible et ils diraient, moi je veux suivre ce qu'il y a dans la Bible, il n'y aurait plus dans cette boutique-là. C'est ceux qui restent dans la vérité, Dieu va faire des miracles pour ramener le monde à la vérité. C'est pour appuyer la parole de vérité qu'il va faire des miracles. Dans Marc 16, 17, écoutez bien celle-là, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Puis là, si on continue ce verset-là, ça dit, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, puis il s'assit à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Voyez-vous? À quoi que ça sert, les miracles de Dieu? C'est pour confirmer la parole. Quand un disciple est en train de prêcher la parole, mais Dieu confirme ce qui est dit en faisant des miracles. Quels sont les miracles qui ont été mentionnés? D'imposer les mains aux malades, puis les malades vont être guéris. Ils vont chasser des démons. Ils vont parler de nouvelles langues. ils vont saisir des serpents, puis ils peuvent boire des breuvages mortels. Ça, c'est quelques signes. Mais si tu regardes les 12 apôtres, là, tout ce qui s'est passé dans les actes des apôtres, tu vas en voir plein de miracles qu'ils ont vécu. C'est des signes que Dieu a montrés pour se manifester. Puis ça, c'est Dieu lui-même qui se manifeste dans les miracles. C'est pas l'être humain, c'est pas, mettons, moi, que j'imposerais les mains à un malade, pas parce que je suis meilleur qu'un autre que la personne va être guérie. Ça n'a pas rapport. Moi, je suis juste comme un instrument. Je prie, mais c'est Dieu qui exauce. C'est Dieu qui fait le miracle. C'est à Dieu qu'revient les mérites de ce miracle-là, la gloire de ce miracle-là. Les choses doivent se faire afin que Dieu soit glorifié. Fait que quand on voit des miracles, faut se mettre à dire, gloire à Dieu, c'est Dieu qui a fait ce miracle-là, puis merci Seigneur d'avoir fait ce miracle-là, puis Dieu il est content parce qu'on l'a glorifié, il va en faire d'autres. Puis il s'attend à ce qu'on ait de la foi. Est-ce qu'on a de la foi de voir des miracles? Est-ce qu'on aimerait voir des miracles? J'en ai vu plusieurs, puis je vais en voir d'autres. Puis vous allez en voir d'autres. Dans Hébreux 2, ça nous dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui a été d'abord annoncé par le Seigneur? Il nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Tout ce qu'on a reçu de la parole de Dieu s'était confirmé par des signes, des prodiges, des miracles. Puis si je fais le tour, là, je suis sûr que vous n'avez vu des exaucements de prière depuis que vous êtes convertis. Dieu vous en a donné des exaucements de prière pour vous montrer qu'il était là. C'est des signes pour vous garder dans la foi. Puis quand que vous avez des besoins, gênez-vous pas de les demander à Dieu. Même un exaucement de prière, c'est un miracle. Tu demandes quelque chose à Dieu, puis c'est quelque chose que tu peux pas réussir toi-même, tu n'es pas capable. Tu le demandes à Dieu, puis Dieu répond, il arrange la situation. C'est un miracle. Faut y dire merci au Seigneur. Faut s'attendre à en avoir de ça quand tu es chrétien. Dieu l'a promis qu'il en aurait. Puis si tu as la foi, tu vas en avoir. Si tu doutes, t'en verras pas. Si tu crois pas, c'est sûr qu'il te force pas. Mais Dieu voudrait que tout le monde croit. Je vais vous montrer bien vite quelques petits exemples dans la Bible de différents miracles qui s'est produits. Dans Matthieu 11, 2. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, il fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Des miracles, Jésus en faisait plein. Plein, plein, plein. Tout le long de son ministère, là, il rentrait d'une ville, ça nous dit qu'il guérissait tous ceux qui avaient n'importe quelle maladie, toute infirmité, il était tout guéri, puis il chassait tous les mauvais esprits qui étaient après les gens. Il ne fait à la tonne. Puis tu regardes tu lis les évangiles, tu vas en voir plein de miracles que Jésus a fait. Un autre exemple de miracle dans Jean, chapitre 2, le verset 11, ça dit que Jésus est invité à une noce, puis ils ont manqué de vin. Là, ils ont dit, ils n'ont plus de vin. Là, il a dit, apportez-moi les vases que là, c'était les vases qui sont sur le bord de la porte d'entrée. C'était des vases qui servaient à se laver les pieds. Tout le monde dans la salle avait passé dedans pour se faire laver les pieds. Il dit, amenez-moi un vase. Puis là, il dit, allez porter ces vases-là à celui qui s'occupe du repas. Il est arrivé avec les gars sont arrivés devant l'ordonnateur du repas, celui qui organisait le repas. Il goûte ça. Hey! Il dit, toi, t'as gardé le meilleur vin jusqu'à la fin. Mais ça, c'est un miracle. Jésus a changé l'eau en vin. Puis Jésus, il était capable de changer de l'eau qui servait à se laver pour s'en servir, pour pouvoir
Il est tout puissant.
Il peut faire n'importe quoi.
Ton corps, pas lui, tu vas nous changer en un instant des millions de personnes, des millions puis des millions. En un instant, on va être rendu.
Transformé.
Transformé dans un corps parfait.
Oui.
Il est capable de changer l'eau en main, de changer en main. Il est capable. Il ne faut pas lutter. Puis même en plus, les serviteurs, ils ont reconnu le miracle de Jésus.
Oui.
Parce qu'eux autres, ils l'ont vu faire, ils savaient que c'était de l'eau. Puis après, ils ont vu que c'était du vin. Ils ont vu que c'était un miracle qui avait été fait cette journée-là.
Oui. Il manifesta sa gloire, puis ses disciples crurent en lui. Ils l'ont reconnu, ils l'ont vu, puis ont dit, aïe aïe, c'est lui qui est Dieu. Parce que pour le reconnaître, pour voir qu'il n'y a pas un personnage à la planète qui est capable de faire ça, puis eux autres, ils ont vu l'eau changer en vin, puis ils ont cru. Dieu, il n'y a rien au-delà de sa limite. Hein. Il peut faire n'importe quoi. Même ça dit que l'autre, il avait la main sèche, une main complètement, ou des paralytiques, ou même des personnes mortes, il les a ressuscités. Il les a redonné la forme d'un bras normal où Dieu est tout puissant. Puis il veut le faire, puis il va y aller selon notre foi. Puis là, toutes les fois, il demandait, que veux-tu que je fasse? Puis là, la personne demandait, puis qu'il te soit fait selon ta foi. Puis les gens recevaient selon leur foi. C'est ce que Dieu s'attend de nous, c'est qu'on ait de la foi. Puis je pense que c'est ça qui est le problème numéro un dans le cœur des gens. Je dirais pas juste aujourd'hui, c'était de même, il y en avait aussi dans ce temps-là, mais particulièrement aujourd'hui, Jésus dit, vais-je trouver de la foi sur la terre? Les gens sont tellement matérialistes, puis terre à terre, puis avec les données scientifiques, qu'ils ont de la misère à croire qu'il pourrait se produire des choses surnaturelles. Un autre plan, c'est quand il a fait le changement, il a créé il y avait une coupe de pain et un petit peu de poisson, il a nourri 5000 personnes. Ça s'est multiplié dans le panier, là, puis là, tout le monde mangeait, puis il en mangeait, puis il en a même resté 12 corbeilles ou 7 paniers dans deux multiplications qu'il a faites, c'est des miracles extraordinaires. Si on voit ça dans Marc 6, 52. Dans Acte 5, 12, ça nous dit « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. » Au portique de Salomon, qui était proche du gros temple, dans le gros temple, les 12 apôtres se tenaient là, puis des miracles, là, ils s'en faisaient régulièrement par la main des apôtres. Un entre autres, quand il y en a un qui était paralytique, qui était assis sur le bord de la porte du temple. Il était boiteux de naissance. Puis là, il a dit de se lever sur ses pieds. « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis là, ils l'ont pris par la main, puis il a sauté dans les airs, puis là, il a été guéri instantanément de ses deux jambes. Mais les apôtres aussi n'ont vécu plein de miracles. Dans Actes 8, 6, ça nous dit « Les foules entières étaient attentives à ce que disait Philippe. » Philippe, c'est un évangéliste. « Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. » Ça veut dire, des guérisons ou des délivrances, c'est appelé des miracles. Dans Actes 19, 11, Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, puis les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. C'est encore un autre bel exemple de miracle que les apôtres vivaient, Paul ce qui vivait. Puis je conclue avec un dernier verset dans Jean 14, 12. Jésus qui est en train de parler, il dit, « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Voyez-vous, tous les exaucements de prière pour les miracles, c'est Jésus qui les demande au Père pour que le Père soit glorifié. Le but des miracles, c'est dans le but que le Père soit glorifié. Si on part avec l'idée, je prie pour quelqu'un afin que, pas que cette personne, nécessairement que la personne soit guérie, c'est sûr qu'elle va l'être, parce qu'on veut qu'elle soit guérie, mais on veut que Dieu soit glorifié, pour la gloire de Dieu, que la personne se relève. Puis quand la personne est relevée, elle va rendre gloire à Dieu. C'est ça le vrai but des miracles. Puis Jésus dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Comme qu'on a vu dans l'autre verset tantôt, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Puis Jésus a dit à Marthe, la sœur de Lazare, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si on veut voir des signes, des prodiges et des miracles, puis c'est un don de l'Esprit de Dieu, ça. Dieu veut qu'on l'ait. Faut avoir la foi. Faut croire. Faut croire que Dieu est capable de le faire. Jésus l'a promis. Jésus l'a fait. Les apôtres l'ont fait. Les évangélistes l'ont fait. Puis il y en a plusieurs aujourd'hui qui l'ont déjà vécu plusieurs. Ça dépend de votre foi. Puis si vous me dites, oh, j'ai pas gros de foi, mais nourrissez votre foi. Lisez la Bible, fortifiez votre foi. Plus vous allez lire la Bible, plus votre foi va grandir, plus vous allez être capable de présenter à Dieu des prières pour recevoir. Amen.
Amen.
Prions. Père Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Je te remercie pour tous ces belles exemples qui sont là, ces écrits-là qui nous sont restés pour nous augmenter notre foi, pour qu'on mette notre foi et notre confiance en ce que tu es là, Seigneur, et tu veux faire ces signes, ces prodiges, ces miracles. Seigneur, je sais que notre premier problème, c'est de manquer de foi ou de douter ou d'avoir peu de foi. Seigneur, augmente notre foi et donne-nous de lire ta parole afin que notre foi augmente, que notre foi devienne inébranlable, qu'on soit capable de présenter des prières avec foi en croyant que ce qu'on dit arrive et on va le voir s'accomplir. Puis je te remercie pour toutes tes promesses de ta parole et donne-nous, Seigneur, d'avancer, de croître dans la grâce, dans la connaissance, mais aussi dans la foi, pour pouvoir saisir ces belles promesses-là. Je te rends grâce dans le nom de ton fils Jésus. Amen.
Amen. Amen.